content de vous voir tous. On s'est vu la plupart d'entre nous hier et c'est bien d'être ensemble encore aujourd'hui pour considérer ou étudier la parole de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de l'humiliation de Jésus-Christ que nous voyons dans ce texte que nous venons de lire. Dans le recueil des chants, nous avons des chants qui ont souvent trois strophes ou quatre strophes. Et je vous ai dit la dernière fois que ce que nous venons de lire est en fait un hymne qui était chanté par l'église primitive, l'église du 1er siècle, et qui était composé de quatre strophes, juste pour les revoir, les étapes, les différentes strophes de cet hymne. Nous avons d'abord la majesté préincarnée de Jésus-Christ que nous voyons dans le verset 6 où il dit qu'il existait en forme de Dieu et qu'il était égal à Dieu. C'est ce que nous avons considéré la semaine passée. Et puis en deuxième lieu, nous voyons la mentalité de Christ. Le verset 6 nous dit « Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé ». C'est-à-dire voici sa mentalité, ce qu'il cherchait dans la vie. Et il n'a point regardé comme il croit arraché d'être égal avec Dieu, nous y reviendrons plus tard. Et puis, nous voyons troisièmement son abaissement. Il commence à grimper l'échelle. Mais c'est dans le sens inverse qu'on aurait cru. Il descend. Et nous allons voir les sept étapes qu'il prend jusqu'à la mort de la croix. Et puis finalement, nous avons cette quatrième étape où le Père... Là, il est tout bas, il est mort, il est enterré même. Et le Père le prend et il l'élève et il lui donne un nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom du Seigneur. Et un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que ce Jésus qui est mort sur la croix et est enterré est effectivement Seigneur. Et ce sera à la gloire de Dieu le Père. Et je vous ai dit que c'est important d'apprendre ces choses par rapport à Christ parce que nous devons d'abord bien comprendre la nature essentielle de Jésus-Christ. Qui était-il réellement? C'est parmi les doctrines, peut-être la doctrine la plus importante que nous pouvons aborder avec les non-croyants. C'est qui exactement est Jésus-Christ? Et puis deuxième aussi, de pouvoir apprécier l'impact de son auto-humiliation, de ce qu'il a fait, en comprenant qui il était. Parce que nous avons dit que la grandeur d'un avancement n'est pas seulement déterminée par la profondeur à laquelle on s'abaisse, parce qu'il y a des gens qui sont déjà très bas, mais c'est déterminé par la hauteur de laquelle on s'abaisse. Et Jésus est allé des plus hauts jusqu'au plus bas pour nous les croyants. Voici c'est le Père, c'est le Dieu, le Dieu Jéhovah, un dans la Trinité qui est une seule et simple essence spirituelle, éternelle, invisible, immuable, infinie, incompréhensible, ineffable, qui peut toute chose, qui est toute sage, toute bonne, toute juste et toute miséricordieuse. Et voilà, c'est lui qui s'est donné pour nous, car il nous aime. Ça, c'est sa gloire avant son incarnation, quand il existait en forme de Dieu. Toute la démonstration de sa gloire, pendant toute l'éternité, tous ses attributs visibles aux anges et révélés à sa création. Il était depuis l'éternité égal avec Dieu. Que dit Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Ça c'est sa gloire qu'il avait avant l'incarnation. Mais nous voyons après cela la mentalité de Jésus-Christ. Quelle était sa mentalité? Je vous invite à regarder le verset 6 de Philippiens chapitre 2 où il dit que Jésus étant lui-même Dieu, nous avons vu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Alors, vous dites peut-être, y a-t-il même d'importance à le savoir? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'il y a plusieurs réponses qu'on peut donner à ce défi. D'abord, si c'est la Sainte Bible, c'est que c'est important. Il ne faut pas réduire en importance ce que nous dit la Bible. Mais comme je viens de le dire, nous parlons ici de la christologie, de la doctrine de Jésus-Christ, qui est parmi les plus importantes doctrines que nous puissions aborder. Et donc nous devons savoir ce qu'il veut dire quand il dit « Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu ». Sauf que la force littérale dans le grec est mieux comprise si nous la rendons de cette façon. Christ n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme un, et puis c'est le mot arpagmos en grec, qui est traduit dans votre Louis II comme une proie à arracher. Ce nom, qui est tiré d'un verbe qui signifie arracher ou saisir, on peut le comprendre soit, il y a deux sens, on peut le comprendre soit comme le fait d'arracher, comme l'action d'arracher, ou soit comme l'objet qui est arraché. Vous voyez, il y a deux idées ici. On peut prendre soit comme l'action d'arracher, ou soit comme le fait qui est saisi, ou la chose même qui est saisie. C'est un peu comme ça dans une seconde, hein, comme la proie qui est arrachée. Hein? Mais même cette traduction nous laisse un peu perplexe. Que quelqu'un pourrait dire, regardez, il dit là, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Cela veut dire que, qu'il n'était pas égal avec Dieu et qu'il n'essayait même pas d'être égal avec Dieu. Hein? Comme si Jésus n'essayait pas de saisir le fait d'être égal avec Dieu. Il était content d'être inégal avec Dieu. Et il n'a pas essayé d'arracher une égalité avec Dieu le Père. Eh bien, il faut comprendre qu'il n'y a pas question ici de Jésus qui est en train d'arracher ou de saisir l'égalité avec Dieu, car il a toujours existé en forme de Dieu. C'est ce que le verset vient de nous dire. Et donc, il n'existe pas non plus la possibilité que Jésus a abandonné son égalité avec Dieu en devenant un homme. Que même sur terre, il a dit qu'il était égal avec Dieu. Vous savez, l'incarnation, quand Jésus est devenu homme, ce n'était pas Dieu moins quelque chose, c'était Dieu plus quelque chose. C'était une addition, pas le contraire, l'incarnation. Donc nous pouvons le comprendre dans le sens actif, si nous entendons ceci. Jésus n'a point regardé le fait d'être égal avec Dieu comme carte blanche de tout saisir, de tout utiliser pour son propre plaisir. Au contraire, il s'est dépouillé lui-même. Ou nous pouvons le comprendre dans le sens passif, c'est-à-dire comme quelque chose qui est saisi, l'objet saisi, si nous entendons par cela que Jésus n'a point regardé son égalité qu'il avait déjà avec Dieu comme un gain à utiliser pour son propre profit. Hein, c'est cela la force de ce passage. Quoi qu'il en soit, le fait d'arracher ou la proie qui est arrachée ici n'est pas son égalité avec Dieu. C'est pas son égalité avec Dieu, mais tous les avantages qui sont associés à cette égalité. Donc nous pouvons le dire ainsi. Il n'a point regardé comme une proie arrachée, pas d'être égal avec Dieu, mais qui n'a pas pensé à son égalité avec Dieu comme arrachement, c'est-à-dire comme une raison d'arracher, comme une chose à utiliser pour son propre avantage. C'est ça la mentalité de Jésus-Christ. Il avait tout, mais il ne pensait même pas à tout utiliser pour son propre avantage. Regardez le verset 5 encore. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une raison ou une excuse d'arrêter ou de prendre le pouvoir, la domination, les richesses, le plaisir, la gloire mondaine, etc. Donc, le message communiqué, je crois, est assez simple. Christ a refusé d'agir égoïstement. Il n'a pas utilisé son égalité comme une excuse pour l'autopromotion. Alors, déjà, nous pouvons l'appliquer. Qu'est-ce que nous avons? On peut mentionner plusieurs choses. Nos liens de parenté, notre éducation, notre position, notre statut dans la société ou dans l'église, peut-être notre âge même. Qu'est-ce que vous avez qui vous donne droit à un certain niveau de respect de la part des autres? Ou peut-être le service des autres, ou un certain type de, je sais pas, d'agir ou de traitement de la part des autres. Voici l'esprit qui va unifier l'Église. Je ne vais pas utiliser, je ne vais pas l'utiliser, quelle qu'elle soit, comme une occasion de servir moi-même. Ça, c'est les sentiments, la mentalité de Jésus-Christ. Alors, si Jésus, le Seigneur de gloire, n'a pas utilisé sa position d'égalité avec Dieu, avec le Dieu tout-puissant pour se procurer même la moindre de faveur, alors comment pouvons-nous utiliser les honneurs, les titres, procurés ici sur terre vides, même sans valeur, pour notre propre bénéfice? Ça, c'est l'application ici. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous avez peut-être entendu les gens qui disent « Je ne dois pas être traité comme cela. » Cette semaine, j'étais même à la mairie. J'ai dû attendre pendant un quart d'heure. Et au bout de 10 minutes, je me disais « Mais quand même, qu'est-ce qu'ils font ici ?» On ne demande pas d'attendre toute la journée à la mairie. Comme si, je ne sais pas, j'ai un droit d'être accueilli en moins de 10 minutes. C'est humain. Et quand on dit, moi, je n'ai pas le droit d'être, ou je ne dois pas être traité, ou c'est pas juste, souvent. Ben, l'implication est simple. Pour les autres, peut-être, mais pour moi, non. Je mérite mieux que ça. Et nous vivons dans un monde où tout le monde utilise tout ce qu'ils peuvent à leur avantage. Alors, je vais vous demander, si vous étiez l'homme ou la femme la plus riche du monde, si vous pouvez l'imaginer, comment utiliseriez-vous votre patrimoine et votre argent? Ou si vous étiez la personne la plus célèbre du monde, comment utiliseriez-vous votre gloire et votre renommée? Ou si vous étiez la personne la plus puissante de la planète, à quelle fin utiliseriez-vous votre pouvoir? Bon, je sais que vous allez donner de l'argent, aux pauvres, bien sûr, à des œuvres de bienfaisance, à prévenir le crime, etc. Mais quelle maison construirez-vous en premier? Et quel patrimoine protégeriez-vous en premier? Et, Dieu nous en préserve, la pensée est presque blasphématoire, mais si vous étiez rendu égal à Dieu, comment utiliseriez-vous votre égalité avec Dieu? Et si on demandait à vos enfants, à vos amis, s'il avait la puissance de Dieu, que ferait-il? Les gens diront probablement, heureusement, qu'il ne l'est pas. Même si Jésus existait depuis toujours en forme de Dieu, c'est ce que dit le verset. Il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une raison ou une excuse d'arracher ou d'utiliser cette égalité pour son propre avantage. Un commentaire nous dit, je cite, Jésus a refusé d'utiliser pour son propre profit la gloire qu'il avait depuis le début. Contrairement à de nombreux despotes orientaux qui utilisaient leur position pour leur propre avantage, et ça se fait encore aujourd'hui, et dans nos pays aussi. Jésus a compris qu'égalité avec Dieu ne signifiait pas recevoir, mais donner. Chrétiens, ayez en vous ces mêmes sentiments. Ce que Dieu vous a donné, ce ne signifie pas recevoir, mais donner. Et vous savez, c'est une chose de ne pas insister sur vos droits, hein, de ne pas porter plainte contre les autres. Mais c'est une autre chose de nier ses droits. Pourtant, si vous voyez, c'est exactement ce que le Notre Sauveur a fait. D'une part, il a refusé d'être bénéficié, c'est sa mentalité, il ne va pas utiliser sa position, sa forme même en tant que Dieu, son égalité avec Dieu, pour en profiter, si vous voulez. Mais de l'autre part, il va délibérément humilier lui-même. Il va prendre action. Hein, nous avons tous été humiliés par d'autres. Mais avons-nous humilié nous-mêmes? Christ l'a fait. Et cette auto-humiliation peut être tracée en 7 étapes. Peut-être vous pouvez même les numéroter juste dans votre Bible. Regardez, c'est le verset 7. La première étape, il s'est dépouillé lui-même. 2, en prenant une forme de serviteur. 3, en devenant semblable aux hommes. 4, en ayant paru comme un simple homme. Verset 8, c'est le numéro 5. Il s'est encore humilié lui-même en tant qu'homme. 6, se rendant obéissant jusqu'à la mort. 7, même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez, les 7 étapes existent dans ces 2 versets. Donc, regardons de plus près la première étape où il dit il s'est dépouillé lui-même. Vous voyez ça dans le verset 7, il s'est dépouillé lui-même. Ces mots-là, c'est dépouillé lui-même, représente un seul mot grec, le mot kénao. Et oui, c'est la clé pour l'interprétation de ce passage. Et peut-être c'est un peu trop, je ne sais pas, c'est pas très intéressant pour certains, mais c'est très important parce que ça parle de Jésus et de ce qu'il a fait. Et à cause de ce mot grec, ce passage est souvent appelé le passage de la kénose, ou la doctrine de la kénose en français. Selon le lexique grec français de Joseph Poussin, ce mot veut dire vider ou épuiser, en fait c'est la signification de ce verbe, vider ou rendre vide. Donc ce verset nous dit que le Christ s'est dépouillé, s'est vidé, il s'est rendu vide. Alors on se dit, mais vidé de quoi? Hein, de sa divinité? Ou d'une partie de sa divinité? Ou est-ce qu'on doit le comprendre comme une expression idiomatique qui veut dire peut-être autre chose? Certains regardent cette phrase, il s'est vidé, il s'est dépouillé, et ils disent que il s'est vidé lui-même de la forme de Dieu. C'est-à-dire il existait en forme de Dieu, mais il a laissé cette forme au ciel quand il est devenu homme. Il était Dieu, il est devenu homme. Et d'autres disent, bon, il s'est vidé de sa position d'égalité, puisqu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une croix arrachée, donc il a dépouillé, il a laissé cette égalité au ciel, et il est venu sur terre. Mais ces positions doivent être rejetées, parce que Christ a clairement affirmé son égalité avec le Père, même pendant sa vie terrestre. Nous avons vu un verset la semaine passée où la foule a compris qu'il se rendait égal avec Dieu il a dit lui-même, moi et le Père, nous sommes un. Donc Christ est resté pleinement Dieu, tout en étant pleinement homme. Donc on ne peut pas être à la fois Dieu et inégaux avec Dieu. Donc, ces deux positions sont hérétiques et doivent être rejetées parce qu'elles contredisent d'autres passages clairs dans l'Écriture. Hein, nous devons toujours interpréter la Bible avec la Bible. Voici ici, ça vous intéresse, quelques solutions qui sont en toute sécurité orthodoxe et possible. Christ s'est dépouillé de sa gloire visible qu'il possédait en tant que Dieu. Le français Jean Calvin dit, il a mis de côté sa gloire dans la vue des hommes, et non pas en la diminuant, mais en la cachant. Cela correspondait à la déclaration suivante, que dit que le Christ a pris la forme d'un serviteur. C'est la déclaration qui vient juste après. Il n'y a pas de gloire visible en étant un serviteur. Donc, sa gloire est caché. En fait, à la fin de sa vie terrestre, Jésus a prié le Père de le glorifier avec, il dit, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ce qui implique qu'il avait mis de côté sa gloire pour un temps. Je veux dire aussi que Jésus s'est dépouillé de l'exercice volontaire de certains de ses attributs divins. C'est MacArthur qui dit que le Christ a choisi de ne pas exercer la plénitude de ses attributs durant sa vie et ministère terrestre. Il a toutefois exercé certains d'entre eux de façon sélective et partielle. Bon, il pouvait tout faire, il pouvait tout connaître, mais nous savons que quand il était sur terre, il y avait des choses qu'il a choisi de ne pas connaître. Il est clair dans les évangiles qu'il n'a exercer aucun de ses attributs divins en indépendance de son Père, mais il dépendait à la fois du Père et de l'Esprit. Il a même avoué qu'il ne savait pas l'heure exacte de son retour, Matthieu 24, 36. Il le sait actuellement, à l'époque, il ne le savait pas. On peut dire aussi peut-être que Christ s'est dépouillé de son autorité divine. Christ a dit à plusieurs reprises, tout au long de son ministère, qu'il n'est pas venu pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de son Père qui est au ciel. Et je crois que toutes ces suggestions, à l'exception bien sûr des deux premières, sont certainement vraies, acceptables. Elles sont des suggestions orthodoxes. Elles représentent fidèlement l'expérience de Christ pendant sa vie terrestre, en tant qu'homme. Mais la question demeure, est-ce que c'est de cela que ce passage parle? Je crois qu'elles sont tous, au fond, des spéculations qui sont vraies, peut-être, possibles, en tout cas, mais elles ne sont pas indiquées par le texte. Donc on ne peut pas être certain que c'est de cela que cet hymne parle, ou que Paul parle ici en Philippiens. Moi, je crois que la réponse se trouve dans le passage lui-même. Laissez-moi vous le montrer. Regardez le verset 7 encore. Mais il s'est dépouillé lui-même, ou littéralement, il s'est vidé lui-même. Peut-être vous avez déjà entendu quelqu'un dire, bon, la clé pour obtenir la bonne réponse, c'est de pouvoir poser la bonne question, n'est-ce pas? Et je pense que nous posons la mauvaise question quand nous nous demandons, il s'est vidé de quoi? Il s'est vidé de quoi? Après, on cherche le quoi? Sa divinité, son autorité, son quoi? Hein, et nous savons, à la fin, nous ne sommes pas sûrs parce que le passage ne nous dit pas. Je pense que la question devrait être plutôt, est-ce que vous me suivez là? Il a vidé quoi? Ou il a dépouillé quoi? Pas il s'est vidé de quoi, mais il a vidé quoi. Et si nous posons cette question, ben la réponse est facile. Qu'a-t-il vidé? Il s'est vidé ou il s'est dépouillé lui-même. N'est-ce pas? Il s'est vidé lui-même. Ce verbe qui traduit vider ou dépouiller dans le second, peut aussi signifier répandre, verser, on verse de l'eau, épancher. Et lui-même peut être considéré comme le complément d'objet direct, pour ceux qui aiment la grammaire. Et donc, on n'a pas besoin de chercher un autre complément, vider quelque chose d'autre. Il s'est vidé, il s'est versé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est vidé lui-même, pas de quelque chose, mais il s'est lui-même vidé, c'est-à-dire il s'est lui-même répandu. Il s'est lui-même répandu, c'est une expression qui donnait l'idée de « il a abandonné tous ses droits ». C'est cette idée-là. Quand Jésus, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait ? Il s'est répandu lui-même. Paul va dire plus tard qu'il est prêt à être répandu comme un sacrifice pour les Philippiens dans cette même lettre. Et qu'est-ce que Jésus a fait ? Il s'est vidé lui-même, il s'est répandu lui-même. Il a abandonné tous ses droits, il s'est donné lui-même, il s'est sacrifié lui-même. Donc non seulement n'a-t-il pas utilisé son égalité avec Dieu le Père pour son propre profit, il se retourne et il fait de lui-même un rien. Un rien, il se vide complètement. Il s'est fait un rien, je crois que c'est ça l'idée. Donc, nous ne devons pas nous demander de quoi s'est-il vidé ou dépouillé, mais en quoi s'est-il vidé. Si il s'est versé, si il s'est répandu, eh bien il s'est répandu en quoi ? Qu'est-ce qu'il est devenu en se répandant, en se vidant ? Et la réponse à cette question est dans les deux prochaines étapes de la descente. Quand il s'est déversé, quand il s'est répandu, quand il s'est dépouillé, dans une forme. Lui qui était dans qui avait la forme de Dieu, il s'est dépouillé dans la forme. Qu'est-ce qu'il dit le verset 7 ? La forme de serviteur. Vous voyez ça ? C'est la deuxième étape. Il a pris la forme de serviteur. Ce mot prenant précise que cet auto-vidage, si vous voulez, n'a pas été une soustraction. Je vous ai dit, quand Jésus est devenu homme, c'est pas Dieu moins quelque chose, c'est Dieu plus quelque chose. On le voit ici. Parce qu'il s'est vide en prenant. Vous voyez ? Il prend quelque chose. Donc c'est pas une soustraction, c'est une addition. Il s'était rien en prenant, pas en renonçant. Et qu'est-ce qu'il a pris ? Il a pris la forme d'un serviteur. C'est choquant. Ce mot traduit par serviteur est utilisé pour la personne qui effectue les fonctions les plus basses sans attendre la moindre rémunération ou reconnaissance. C'est le mot esclave. Et le mot forme, c'est le même mot que nous avons vu dans le verset 6, qui veut dire, où ça parle d'être en forme de Dieu, qui veut dire que Jésus n'était pas en train de jouer la comédie, hein. Il entre sur la scène et il fait semblant comme s'il était un serviteur. Non, il est réellement serviteur. Il a la forme d'un serviteur. Il a l'essence, si vous voulez, même de ce qui constitue un esclave. Imaginez, le maître de tout se vide en esclave, se verse en esclave, devient esclave. Et donc, nous posons la question, l'esclave de qui ? Le serviteur de qui ? Parce que ça n'existe pas un esclave sans maître, n'est-ce pas ? Pour faire, si je perds mon maître, c'est que je suis moi-même mis en liberté. Et peut-être nous pensons à des passages tels que Marc 10, verset 45, qui dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. » Donc il est le serviteur des hommes. Ou peut-être comme un passage comme Jean 13, qui dit que Jésus se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples. Et il nous répondra à cette question de qui est-il le serviteur, et nous disons, Christ était le serviteur et l'esclave de tous. Mais je crois que le sens ici est encore plus profond et plus beau. Parce que si vous regardez les étapes, hein, je vous demande d'être comme une façon de regarder bien ces étapes, vous remarquerez que prenant une forme de serviteur ou d'esclave est l'étape chronologiquement avant, et en ce qui concerne sa position au-dessus, le fait de devenir semblable aux hommes. Vous voyez, c'est après qu'il devient semblable aux hommes. Mais avant de devenir semblable aux hommes, il prend la forme d'un serviteur. Donc, pour devenir le serviteur des hommes, il faut bien qu'il soit déjà homme. Donc, de qui est-il devenu le serviteur avant de devenir le serviteur des hommes, avant de devenir même homme? Vous savez, dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, nous donne plusieurs grands passages prophétiques qui sont connus sur le nom de les chants du serviteur. Les chants, c'est-à-dire les cantiques du serviteur. Et je vais vous montrer plusieurs. Le premier de ces chants du serviteur est en Ésaïe 42, verset 1. C'est Dieu qui parle et il dit: voici mon serviteur, mon élu, en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. C'est mon serviteur. Le plus connu de ces chants de serviteur est Ésaïe 53. Nous lisons souvent. Nous savons, la plupart d'entre nous, que ça parle de Jésus-Christ et de sa mort. Mais ce chant commence réellement dans le chapitre 52, verset 13, où il dit ceci: voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Il commence le chant, qui est Ésaïe 53, en disant ceci: mon serviteur. Et ce mot hébreu est toujours rendu dans la tradition grec de l'Ancien Testament avec le mot grec païs. Et c'est ce même mot utilisé ici en Ésaïe que les disciples vont prendre, les apôtres vont prendre, et ils vont l'appliquer à Jésus-Christ. Et nous trouvons plusieurs fois en Actes, je vous montre quelques versets, Actes 3, verset 13, où il parle et dit: le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son païs, son serviteur Jésus. Vous voyez, c'est le Dieu et il a un serviteur, et c'est Jésus qui est son serviteur, que vous allez livrer et renier devant Pilate. Je dis plus tard dans le même chapitre: c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son païs, son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. C'est Dieu qui envoie son serviteur, et ce serviteur, c'est Jésus-Christ. Donc je crois que nous voyons dans cette expression, pour revenir à Philippiens chapitre 2 verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Nous voyons sa soumission volontaire à Dieu le Père. Il va se soumettre à son Père. Il va devenir le serviteur de son Père. Écoutez tous ces versets de Jean. Jean 4, 34. Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 8, 49 et 50, j'honore le Père, je ne cherche point ma gloire. Jean 9, 4, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jean 10, 17 et 18, je donne ma vie de moi-même, telle est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Vous voyez, il m'a envoyé et c'est son ordre et ce que je fais. Jean 12, 27, 28, maintenant mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le jardin? Oh, Père, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il s'est rendu le serviteur de Dieu son Père. Jésus est venu pour servir l'humanité. Mais il s'est subordonné au Père dans tous les sens. C'est une chose de se soumettre à un supérieur. Hein, au travail, il faut le faire, il se le cherche, on n'a pas de choix. Mais Christ, ici, on commence, il est en égalité avec Dieu. Il veut souligner ça, qu'il a la forme de Dieu, qu'il est Dieu lui-même. Mais il se fait lui-même, il se rend lui-même esclave de Dieu. Esclave de Dieu. C'est comme dans le couple, quelqu'un dit, moi je veux être ton esclave, dans tout ce que tu dis. Esclave, plus que la soumission, quelqu'un qui demandait dans le couple, mais moi je veux vraiment être l'esclave de l'autre. C'est ce qu'il a fait. Le serviteur d'un égal. Et quelle est l'application? Quelle est l'application? Ayez en vous les mêmes sentiments. Vous dites, mais je suis pas pire que l'autre. Je mérite autant que lui. D'accord. Mais faites-vous l'esclave de l'autre quand même. C'est ça la mentalité que nous devons avoir. Puis nous voyons la troisième étape. Troisième étape dans le verset 7 encore. Après être devenu le serviteur de Dieu le Père, il devient semblable aux hommes. Poursuivant sa descente volontaire, le Seigneur, le roi de gloire, égal avec Dieu, devient, hein, le verbe signifie ici prendre encore, parce qu'il prend quelque chose à lui-même, il devient semblable aux hommes. Hébreux 9 nous dit, abaissé même pour un temps au-dessous des anges même. Il est abaissé au-dessous des anges parce qu'il devient semblable aux hommes. Et donc dans sa conception, dans sa naissance de la Vierge Marie, il s'est revêtu de l'humanité. Quelle descendance, condescendance, pardon. Et surtout, quand nous pensons à cet humble matériel duquel nous sommes faits, il a pris. La Bible dit que Dieu a fait Adam de quoi? Qu'est-ce qu'il a pris pour créer Adam? La poussière de la terre, n'est-ce pas? La terre est même. Et maintenant, Dieu, le Créateur, parce qu'il a tout créé, la Bible dit, il devient lui-même cette poussière. Le Créateur devient ce qu'il a créé. Mais ce n'était pas seulement la poussière d'Adam, mais c'était la poussière déchue d'Adam. Le fait que Jésus n'a pas péché ne veut pas dire qu'il n'a pas subi les effets du péché et de la chute. Ah ben, il a subi même la mort. C'est le résultat final. Jésus a pris un corps qui avait été maudit par la chute. Un corps qui allait devoir travailler jusqu'à la sueur coule de son front. Un corps qui s'affaiblissait quand il allait sans repos. Un corps qui était dépendant sur la nourriture et l'eau. Avec des pieds qui se fatiguaient après de longues marches, avec une voix qui s'enrouait à force de parler, avec des yeux qui brûlaient à cause de la poussière, de la route, avec un dos qui certainement faisait mal des fois après avoir été assis sur un banc d'un charpentier menuisier pendant des heures, avec la peau qui s'ouvrait et saignait quand on le fouettait, avec des poumons qui haletaient avant d'expirer, avant d'arrêter, avant de mourir là, quand il était sur la croix. Il avait un corps comme vous et comme moi. Cette ressemblance était véritable et réelle. Ce n'était pas que Jésus ressemblait à un homme, mais en fond, il n'était pas vraiment un homme. Non, il était vraiment un homme. Il était 100% homme, tout comme il a été toujours 100% Dieu. Il ne fut pas moins humain que vous et moi. Il était aussi humain que moi et que vous.
Et tout ce comme son humanité, comme j'ai dit avant, n'a pas sustrait quelque chose de sa divinité, en fait, il ne faut pas penser dans le contraire non plus que sa divinité a enlevé quelque chose de son humanité. Non, il était complètement 100% homme, tout en étant Dieu. Il est né d'une femme, Hébreux 2, 14 nous dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. » Il est devenu un homme. Et si vous ne croyez pas en Christ, les choses sont incroyables, ridicules, de penser que Dieu puisse même devenir un homme. Il faut soit le rejeter comme la plus grande des folies jamais inventées, ou il faut l'accepter comme vrai et adorer celui qui l'a fait. Nous voyons le Christ qui s'abat au point de devenir un vrai homme. On se dit, bon, ça, c'est déjà humiliant. Eh bien, comment, si c'était à vous de deviner, hein, comment attendez-vous qu'il apparaisse en tant qu'homme? N'allez-vous pas quand même révéler en tant qu'homme, par son aspect même, que bien qu'il était homme, il était aussi Dieu. Et donc, on voyait, quand on regardait Jésus, on voyait l'homme, mais aussi on voyait Dieu, on voyait quelque chose de son aspect, sa lueur peut-être. Qui resplendissait, on voyait que c'était pas un simple homme, c'était un homme Dieu, c'était un homme divin. Et ben non. Regardez la quatrième étape. Il devient homme, oui. Il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un serviteur, il devient semblable aux hommes. Mais quand il paraît devant les hommes, il a paru comme un simple homme. Paru, c'est un autre mot que forme, complètement un autre mot, ce mot signifie l'aspect extérieur. On peut mettre le mot apparence, son apparence. Il a paru là. Et on le trouve, quand on utilise un roi qui échangeait sa robe royale pour le sac et la cendre en temps de deuil, donc il apparaissait en deuil avec le sac et la cendre. Et bien que la forme ne change pas, votre apparence peut changer. Hein? Quand j'étais petit, j'avais la même forme, j'étais moi, même en tant que petit, mais mon apparence a changé, ça continue à changer. Et le Seigneur, quand il s'est fait homme, est resté pleinement Dieu, il est resté dans la forme de Dieu, mais son apparence était tout simplement celle d'un homme. Il est devenu homme, et il est paru comme un simple homme. Vous voyez que c'est le Seigneur de gloire qui est simplement constaté ou reconnu comme n'étant rien de plus qu'un homme. C'est-à-dire que si vous l'aurez vu sur la route, en partant sur la route, vous aurez dit que c'était un homme tout simple, rien de plus. Quand il venait en ville, les gens disaient, « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ?» C'est comme ça qu'il a paru devant les gens. Comme le fils de Joseph, avec des frères et des sœurs, avec une mère. Jean 7, en fait, nous dit que même ses frères n'ont pas cru en lui. Ils ne voyaient, même ses frères qui habitaient par contre dans la maison, ne voyaient rien de plus qu'un frère aîné. Jusqu'à plus tard. C'est exactement ce que Ésaïe 53 a prédit. Quand il a dit, son aspect n'avait rien pour nous faire. Rien pour nous faire. On le regardait, c'était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui, pas vers lequel nous sommes attirés, mais plutôt vers lequel nous voulons détourner le visage. En fait, nous l'avons dénué. Et nous l'avons fait de lui aucun cas. C'est peut-être ça le pire des insultes. Quand on fait de nous aucun cas. Sa beauté, sa majesté était tellement voilée que pendant sa vie terrestre, on en parle d'une seule fois, quand dans la compagnie de seulement trois de ses disciples, les plus intimes, que son apparence a changé et qu'il a laissé une partie de sa gloire être révélé, et Matthieu 17 dit qu'il fut transfiguré devant eux, son visage Regarde ce qui se passe quand il change son apparence. Son visage resplendit comme le soleil, imaginez ça, resplendir comme le soleil, et ses vêtements devenaient blancs comme la lumière. Mais pour tous les autres, il est apparu comme un simple homme. Un homme et rien de plus. Et pendant 33 ans, moins, pendant toute sa vie, le créateur de l'univers marchait sur terre comme un simple homme. Ça prend de l'humiliation. Si on a quand même la carte qui nous dit que nous sommes, je ne sais pas, quelqu'un d'important, on veut quand même la sortir des fois pour démontrer que nous avons l'autorité, que nous sommes qui nous sommes. Eh bien, il n'a jamais sorti sa carte d'identité pour montrer qui il était. La pensée serait blasphématoire de penser que cet homme pourrait être vraiment Dieu si cela n'était pas vrai. Je crois que nous avons tendance, en fait je le sens dans moi-même, à la tendance de minimiser la condescendance de Jésus-Christ, parce qu'on se dit, bon, c'est vrai, il a renoncé à toutes ces choses, mais il savait que c'était pour un temps et qu'il allait les récupérer un jour au ciel. Et c'est vrai qu'il avait les yeux fixés, Hébreu va nous dire sur la récompense. Mais il ne faut pas oublier qu'il a renoncé pendant toute une vie. Pendant toute une vie. Alors, combien d'entre nous sommes prêts à renoncer à quoi que ce soit pendant toute notre vie, même si nous savons que nous allons recevoir un récompense au ciel? Il l'a fait pendant toute sa vie jusqu'à sa mort. Vous savez, l'incarnation était coûteuse pour Jésus. C'est humiliant pour notre souverain, et par contre, de plein gré, il a nié tous ses droits en tant que Dieu, il est apparu comme un homme, il est devenu homme, et il s'est démontré comme un simple homme. Et qu'est-ce que nous faisons toute la semaine? Nous nous battons jusqu'au bout pour chacun de nos droits. Nous ne sommes même pas prêts à abandonner un seul de nos droits. Et Jésus a laissé tout tomber. Et donc Pierre nous dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, en vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Nous devons suivre notre chose qui ne peut pas se faire en nous-mêmes, il faut l'Esprit en nous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme d'un esclave ou d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru, même étant toujours Dieu, comme un simple homme. Avez-vous l'esprit, avons-nous les sentiments de Jésus-Christ? Pourquoi Dieu a-t-il pu permettre à son fils d'aller jusqu'à ce point? Pourquoi le Père n'a-t-il pas dit, c'est assez mon fils, tu vas trop loin? Parce que c'est une chose de s'humilier lui-même, mais même pour le Père de voir son fils qui s'humilie à tel point, comment Dieu l'a pu le faire? La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Hein, le sacrifice de Jésus-Christ était de son propre gré, oui, mais c'était aussi de la part de Dieu le Père. C'est le Père qui a donné son Fils. Le Père qui a souffert comme son Fils. Et ceci nous montre que Dieu nous aime. Avec que Dieu vous aime. Ce sont des choses merveilleuses. Regardez ce qu'il a fait pour vous, ce qu'il vous offre. Êtes-vous en train de repousser l'amour de Jésus-Christ? On vous offre un cadeau merveilleux, on vous l'apporte, on vous le donne, on l'amène chez vous, vous n'avez même pas besoin de payer les frais de voyage, et voici, vous claquez la porte et vous dites non. C'est triste. Et le jugement va être grand pour ceux qui le font. Pensez à l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père démontré dans l'humiliation de Jésus-Christ. Prions.